Adayada est agrégé et docteur en philosophie. Elle est actuellement inspecteur général de l'enseignement en philosophie. Parmi les ouvrages qu'elle a écrits récemment, Islam des théophanies, une religion à l'épreuve de l'art, publié en 2010 aux éditions du CNRS, a beaucoup attiré l'attention, car en effet, le livre dépasse de très loin la question des images, mais engage toute une réflexion donc, sur la tension qui peut exister entre un monothéisme, disons, fondé sur la loi et un monothéisme de la manifestation divine. Enfin, je pense que Soaz va bientôt en dire beaucoup plus.
Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Merci à vous d'être présent. Je ne saurais faire une communication sur Ibn Arabi sans commencer par évoquer la figure de celui auquel cette journée est consacrée, sans évoquer Henri Corbin. Après ce Ravardi, mais sans doute avec la même puissance de déterminer une vocation intellectuelle et d'infléchir une courbe de vie, Ibn Arabi est pour Henri Corbin le nom d'une décision. Une décision concernant la vocation de l'islam, décision herméneutique qui configure le travail de l'islamologue, décision aussi concernant la vocation du soufisme. On sait que Corbin composa peu d'ouvrages conçus comme tels, voulus comme tels, et que la plupart des écrits publiés de son vivant sont des recueils d'articles, d'études, de conférences. Le livre consacré à Ibn Arabi est édité en 1958, « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi », se distingue précisément sur ce point. Bien que construit à partir des études et des réflexions présentées à Ascona lors de deux sessions, celles de 55 et de 56 du Cercle Eranos, il est pensé et rédigé comme un livre. Livre qui, sans être une monographie, se veut une méditation en profondeur de thèmes déterminés qui forment une totalité unifiée et qui composent une œuvre, l'œuvre d'Ibn Arabi. Pour souligner, pour suggérer un peu mieux l'importance d'Ibn Arabi pour Henri Corbin, je me référerai à la préface à la deuxième édition de l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. Je relèverai quelques passages significatifs de cette brève préface où Henri Corbin revient sur son parcours, le réfléchit et en montre toute la cohérence. Au tout début de cette préface, voici ce qu'écrit Henri Corbin à propos du livre paru en 1958 sur Ibn Arabi. Ce livre fut pour son auteur un nouveau point de départ, un moment privilégié dont la clarté illumina la route suivie depuis lors. Il en va pour Henri Corbin avec Ibn Arabi d'une rencontre, d'une relation personnelle. Relation de personne à personne, de singularité à singularité, relation du seul avec le seul, pour pasticher une formule d'Henri Corbin. La préface à la deuxième édition réitère en quelque sorte le pacte de fidélité qui fut conclu 20 ans auparavant avec Ibn Arabi. La relation entre ces deux personnes est une relation, dira un peu plus loin Henri Corbin, de maître à disciple. Cette relation de maître à disciple va fixer le principe herméneutique de Corbin dans l'imagination créatrice. Voici ce qu'écrit, je cite toujours Henri Corbin, dans l'introduction de l'imagination créatrice. Le seul moyen de le comprendre, c'est-à-dire de comprendre Ibn Arabi, est de se faire un moment son disciple. Ibn Arabi n'est pas, pour Henri Corbin, un philosophe. C'est un maître spirituel, le fondateur d'une spiritualité. Nous rencontrons là le maître mot qui scelle la rencontre personnelle d'Ibn Arabi et de Corbin, mais aussi le principe de lecture d'Ibn Arabi par Henri Corbin.
une lecture qui est portée par un désir de vérité, désir qui modifie le lecteur tout aussi bien. Toujours à la page 13 de cette introduction de l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, Corbin précise le dessin qui est le sien dans ce livre. « Ce que nous avons voulu, ce fut de vivre un moment avec lui sa propre spiritualité. À notre tour, c'est de cette spiritualité telle que nous l'avons éprouvée que nous voudrions communiquer quelque chose à ceux qui cherchent sur la même voie. » Corbin, conscient, dit-il, du caractère insolite de ce mot de spiritualité, en propose une définition simple, assez désarmante, mais très significative. La spiritualité désigne, dit-il, ce qui concerne la vie la plus secrète et la plus profonde de l'âme. C'est ce qui renvoie chacun à l'impératif personnel. Le vocabulaire ainsi sollicité par Henri Corbin dans la préface et dans l'introduction, spiritualité, voie, enseignement spirituel, nous situe incontestablement hors de la philosophie. Les désignations plus précises que proposera Corbin de la pensée d'Ibn Arabi dans le corps de l'ouvrage confirmeront, en première lecture, cette extériorité. Extériorité au registre et au domaine de la philosophie. Ibn Arabi est d'abord et avant tout pour Henri Corbin un mystique, un maître du soufisme dont il renouvelle les principes et l'expérience. Corbin privilégiera l'étude de l'expérience mystique d'Ibn Arabi, expérience mystique visionnaire, singulière, qui ne se déploie pas, dit-il, selon la via négationniste de l'aniconisme, mais qui est rendue possible par les visions imaginales, expérience mystique visionnaire qui exige, selon Corbin, une étude détaillée du rôle de l'imagination créatrice dans la doctrine spirituelle d'Ibn Arabi. À ces deux termes principaux, d'expérience et de mystique, va s'ajouter un troisième terme essentiel qui, à lui seul, va servir à caractériser la pensée d'Ibn Arabi dans sa totalité, c'est le mot de théosophie. Corbin l'utilisera sans cesse, en ajoutant parfois quelques déterminations variées. Il parlera de théosophie prophétique, de théosophie mystique visionnaire et d'autres choses accompagnant la théosophie. Alors, qu'a-t-il en vue avec ce terme de théosophie ? D'abord, Corbin le convoque, semble-t-il, pour se rabarder. Il le sollicite ensuite pour caractériser la pensée d'Ibn Arabi dans un sens particulier, avec une charge qui est celle que confère à ce mot celui qu'on a appelé le prince de la théosophie chrétienne, à savoir le théosophe Jacob Böhm au XVIIe siècle. C'est avec Jacob Böhm, en effet, que la théosophie acquiert ses caractéristiques définitives. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est la théosophie telle que l'entend Corbin dans cette référence à Jacob Böhm. Je crois que ce qui est important et ce qu'il permet à Corbin d'appliquer le terme à Ibn Arabi, c'est quatre de ses caractéristiques fondamentales. Tout d'abord, le principe du libre examen. Libre examen du luthéranisme que Corbin voit à l'œuvre dans la pensée d'Ibn Arabi. Le deuxième élément important, c'est bien évidemment la mise en avant du prophétisme. La mise en avant du prophétisme, auquel s'ajoute bien évidemment le renouvellement de la spiritualité et, quatrième et dernier élément qui définit cette théosophie, le privilège accordé à l'expérience intérieure, l'expérience personnelle. Pour Corbin, donc, Ibn Arabi est un théosophe qui a construit une spiritualité de part en part adossée au soufisme. C'est la caractérisation interne du soufisme qui l'intéresse, et qui le conduit à inventer, je crois qu'on peut parler ainsi, la notion d'imagination créatrice et surtout celle d'imaginal qui lui est intimement associée. Le travail qu'il mène dans l'imagination créatrice à partir de l'exégèse de nombreux passages des Fossos al-Hikam et des Futuhat al-Makkiyah va dans ce sens. La préface à la deuxième édition est très explicite. Je cite de nouveau Henri Corbin. « C'est l'expérience visionnaire qui est à l'origine des Fossos », écrit-il. « C'est l'expérience visionnaire d'Ibn Arabi qui oriente comme telle la présente recherche sur le rôle de l'imagination créatrice. » Alors mon propos est de m'inscrire un petit peu dans les creux laissés par Henri Corbin qu'il met en avant mais qu'il n'exploite pas véritablement parce que, comme je viens de le suggérer rapidement, ça n'est pas son objet. C'est que pour renouveler le contenu de la spiritualité du soufisme, pour consolider les aspirations de l'expérience visionnaire, Ibn Arabi a besoin d'une structure métaphysique. Structure métaphysique qui porte sur les objets traditionnels de la métaphysique, Dieu, l'âme et le monde. En effet, pour réaliser ses fins, Ibn Arabi doit s'élever au-delà de la description de l'expérience mystique visionnaire et des orientations fondamentales du soufisme primitif. Et cela, c'est ce que je vais essayer de montrer, exige une élaboration philosophique, fût-elle inconsciente de sa portée proprement philosophique. Alors, il faudrait, pour montrer cela plus en avant, souligner toutes les lignes de rupture introduites par Ibn Arabi dans le soufisme et qui jettent les bases d'un soufisme spéculatif et philosophant. Vous le savez, le soufisme, la mystique de l'islam, commence par dans les termes d'un ascétisme austère. Le soufisme primitif est tout entier dans la piété pratique, qui ne s'embarrasse pas vraiment de spéculation métaphysique. L'accent est mis sur la pureté intérieure, la contrition, la crainte de Dieu. On pourrait qualifier ce soufisme primitif de pessimiste, d'aride. C'est en tout cas ce dont témoignent les ascètes des premiers siècles de l'islam, avec lesquels Ibn Arabi entretient une certaine distance. Distance aussi avec les grands maîtres du soufisme, avec Abu Yazid Bastami, avec Junaïd, avec Hallaj. Je n'insiste pas. Le soufisme d'Ibn Arabi, c'est un soufisme de maturité qui trouve dans la construction philosophique d'un édifice métaphysique complexe son achèvement doctrinal. Ce soufisme philosophant va ouvrir la voie à la fusion du soufisme et de la philosophie. Cette fusion est sans doute l'un des traits caractéristiques de la philosophie islamique à partir du XIVe siècle. Alors, je souhaite vous présenter, à partir de l'analyse de ce qui me semble être son intuition première et ses thèmes fondamentaux, la méthode philosophique que suit Ibn Arabi pour à la fois justifier une vision métaphysique du réel et fonder l'expérience mystique. Les thèmes structurants de la pensée d'Ibn Arabi, la théophanie, les noms divins, l'homme parfait, s'articule à une intuition originaire qui concerne l'être premier, ce qu'on nomme communément Dieu. Sur ce point, il faudrait souligner la grande prégnance des modèles de pensée néoplatoniciens chez Ibn Arabi. Je ne dis pas, bien évidemment, qu'Ibn Arabi a une formation philosophique poussée qui lui aurait appris le néoplatonisme. Quoiqu'une biographie intellectuelle véritablement poussé, qui ne se contenterait pas de la description des pérégrinations d'Ibn Arabi, de la rencontre avec tel saint ou tel soufi d'Andalousie, serait très utile. Je souhaite simplement suggérer que la conception ibn-arabienne de l'un-dieu reconduit sans doute inconsciemment un schème néoplatonicien, celui qui se trouve explicitement formulé dans la théologie d'Aristote. Cette théologie d'Aristote, c'est la paraphrase de quelques extraits des trois dernières Énéades de Plotin. Ce texte semble-t-il contemporain d'El-Kindi, donc du tout début de la falsafa, va connaître une diffusion immense dans la philosophie islamique. Alors, Ibn Arabi a-t-il eu entre les mains la version brève, la plus courante, qui circulait dans les milieux philosophants en islam? Je ne saurais dire. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce texte que l'on trouve formulée une distinction qui sera au fondement de la pensée d'Ibn Arabi. La distinction entre l'impur et l'un tout, la distinction entre l'un qui transcende le tout et l'un qui contient le tout. Dans le vocabulaire d'Ibn Arabi, c'est la distinction entre el-ahidiyya et el-wahidiyya. Ibn Arabi, en effet, utilise le mot el-ahidiyya pour désigner l'essence divine dans son mystère absolu, l'essence située au-delà de l'existence déterminée et de l'être défini de l'étant. Il la distingue, el-ahidiyya, de la wahidiyya, qui désigne l'essence divine en tant que principe de la multiplicité, en tant que source du déploiement des possibles contenus dans la ahidiyya. Alors, cette distinction, elle est fondamentale. Elle indique que la substance divine est un sujet, qu'elle est une activité. Elle indique aussi qu'il existe une dialectique interne à l'essence divine, dialectique interne qui rend raison de la conception ibn arabienne de la création. Ibn Arabi parle en effet d'effusion pour expliquer la création du monde. La notion de faïd, qui n'est pas sans évoquer, avec bien évidemment des différences majeures, l'émanation des néoplatoniciens, désigne le pouvoir infini d'expansion que possède Dieu, lequel pouvoir est la conséquence nécessaire de la surabondance de son essence. Là, cette distinction de la ahidiyya et de la wahidiyya ne renvoie pas la division d'un Dieu caché et d'un Dieu révélé. Elle réfère plutôt à la dialectique vivante entre le caché et l'apparent. C'est pourquoi Ibn Arabi articule très étroitement la notion d'effusion, de faïd, à celle de théophanie. Ce qui s'épanche en effet dans le flux de l'instauration primordiale, c'est la théophanie permanente. Dieu, dit Ibn Arabi, et Tajalli, il se révèle dans une opération de mise en lumière de soi et dans une activité qui lui est propre, le faïd. La théophanie, c'est le concept clé de la pensée d'Ibn Arabi, c'est l'objet de l'intuition originaire qui gouverne intégralement l'édification de quelque chose qui prend la forme d'un système, même si je sais que les Akbariens n'aiment pas beaucoup ce mot. La création, c'est le Zohor Ilahi, l'apparition lumineuse de l'être divin. Elle fait advenir des réalités qui ne sont pas simplement des créatures, mais qui sont des monades d'existence, des réalités où Dieu se révèle en se donnant à voir. L'être créé, l'ensemble de la création, c'est l'être manifeste, la forme de manifestation de Dieu. La création, c'est un mode d'apparition qui transforme tout existant en une forme de manifestation, forme apparitionnelle, dirait Corbin, forme épiphanique, dirait-il aussi. L'unité de la forme épiphanique et de ce qu'elle épiphanise s'impose. Ibn Arabi ne parle pas, pour qualifier cette unité, d'ittisal, de jonction intégrale. Il n'a pas en vue une unification qui briserait toute différence, au point de confondre les deux parties ou de soumettre l'une à l'autre, jusqu'à résorption totale de la distance. Il convoque la notion d'ittihad, d'unification, pour désigner un processus, processus qui maintient la dualité entre les termes et conjure donc toute idée d'union hypostatique. Les formes d'apparition ne sont pas, certes, autre chose que ce qu'elles donnent à paraître, mais elles s'en distinguent comme autant d'apparitions évanescentes et multiples qui ne sont jamais tout à fait celui qui apparaît. La forme de manifestation n'est pas celui qui s'y manifeste, du moins tel qu'il est dans l'absoluité de son essence insondable. La forme de manifestation ne s'identifie pas immédiatement avec celui qui en elle se manifeste. Elle est seulement ce en quoi celui qui se manifeste apparaît et se mire. Le monde n'est pas Dieu, mais une forme d'apparition, un signe de la forme de Dieu. L'unité théophanique que nous invite à penser Ibn Arabi nous situe dans un horizon étranger à l'unité que figure, que représente la notion chrétienne d'incarnation. Elle est tout aussi bien étrangère aux prétentions qui animent, semble-t-il, une mystique promettant l'unité immédiate et sans reste avec le divin. La pensée de la théophanie repose chez Ibn Arabi sur un couple de concepts, le caché et l'apparent. Elle soutient que le destin du caché est de devenir apparent, que le mouvement qui affecte de l'intérieur la divinité la porte à sortir de son état d'occultation pour devenir une réalité manifeste. Elle rappelle dans le même temps ce qui a lieu dans toute apparition. Ce qui apparaît est une réalité foncièrement cachée, qui, pour cela, ne peut se manifester comme caché qu'en prenant figure dans une forme qu'en apparaissant. L'apparition donc ne signifie pas l'épuisement du caché. Elle atteste plutôt en chacun de ses éclats l'existence intacte et la pérennité du caché en tant qu'il est caché. La logique de la théophanie nous conduit au comble du paradoxe. Plus le caché se fait apparent, plus il accroît son occultation et davantage il se dissimule. Pour comprendre plus à fond cette conception de l'unité, il convient de mettre au jour le postulat philosophique qui en est la source. Il s'agit de la doctrine de la wahdat al-wujud, littéralement l'unité de l'être. L'expression wahdat al-wujud n'apparaît pas sous la plume d'Ibn Arabi. Elle fut forgée par Sadruddin Kunawi, le beau-fils et disciple d'Ibn Arabi. Cependant, elle convient parfaitement pour indiquer la position philosophique d'Ibn Arabi telle qu'elle s'énonce dans une théorie du wujud, dans une conception de l'être qui est une ontologie consciente et assumée. L'ontologie d'Ibn Arabi se construit sur la base d'une équation qui assimile l'être à Dieu. Elle soutient que l'essence divine est toute chose, que tout ce qui existe, tout mawjoud, puise la substance de son être à une source unique, le wujud qu'est Dieu. Il n'y a dans l'être que Dieu. Ce qui est réel, n'est rien d'autre que Dieu, flux incommensurable d'existence qui ne connaît pas de limite. Si Dieu seul est réel, quel statut, quel degré d'existence reconnaître aux différentes mawjoudat, aux existants multiples qui existent par le wujud d'Allah. Les existants sont, nous l'avons vu, des formes épiphaniques qui manifestent l'existence divine, formes qui sont en soi inexistantes, mais que Dieu actualise en leur communiquant de son existence. Alors je m'attarderai un petit moment sur cette wahdat al-wujud. Elle ne décrit pas une situation ou un donné. Ce n'est pas la formulation savante d'une expérience humaine, fût-elle exceptionnel ou mystique. Tout rapport à l'être, toute perspective prise sur l'être sont prisonniers de la dualité. La seule unité que nous pouvons éprouver et connaître ne se conçoit que comme l'unité de deux termes. La wahdat al-wujud, c'est une hypothèse philosophique rendue nécessaire par l'impossibilité de concevoir la moindre existence en dehors de l'existence absolue. Dire que l'être est un ne relève donc pas de l'extase mystique, ni d'un quelconque vécu. C'est se prononcer rationnellement sur ce qui fait l'essence de l'être. C'est tirer toutes les conséquences théoriques de la théophanie. La structure théophanique du réel suppose une unité indissoluble entre l'être de celui qui apparaît et l'être des formes d'apparition. Elle est impensable sans l'unité du créateur et de la créature. Mais l'unité qu'elle suppose ne compromet pas la souveraineté de l'être unique, ni ne supprime la diversité et la pluralité irréductibles des existants. La wahdat al-wujud n'est pas un monisme, fut-il existentiel. Elle n'est pas davantage la formule philosophique arabe du panthéisme. N'en déplaise à Louis Massignon. Pour Ibn Arabi, la théophanie obéit à un processus et elle en passe par des degrés différenciés. Le premier degré, c'est l'apparition de l'essence divine à soi-même. Dans le mystère de l'essence absolument une, Dhat al-Ahidiyya, a lieu une opération théophanique initiale. L'être divin se montre à lui-même en manifestant à soi-même ses propres noms. Cette première théophanie, c'est une extension du réel divin, dit Ibn Arabi, qui permet à l'essence divine de déplier son être de manière à accéder à ses propres virtualités internes. Ces virtualités, ce sont précisément les noms divins, el-asma, el-ilahi. Le deuxième degré de la théophanie, c'est la manifestation de l'essence divine intégralement présente dans ses noms en des individuations éternelles, archétypiques, qu'Ibn Arabi appelle el-ayan et-tabita. Quelque chose qui a à voir vraiment avec les formes platoniciennes. Ces individuations ne sont pas les déterminations immédiates de l'essence divine insondable. Ce sont les formes qui, de toute éternité, épiphanisent les noms divins. Dans le monde divin où elles sont établies, ces formes ont une existence intelligible. Elles sont les modèles des êtres offerts à notre perception. Le troisième, enfin et ultime degré de la théophanie est composé par l'ensemble des êtres sensibles, dont la forme spécifique est le corrélat d'une forme intelligible, elle-même corrélat d'un nom divin. La mise en évidence de ces plans théophaniques dissipe une confusion. À aucun moment, Ibn Arabi n'affirme qu'il existe une manifestation sensible de l'essence divine comme telle. L'essence divine comme telle est insondable. Le réel est absolument retranché. Ibn Arabi répète inlassablement que Dieu est le mystère des mystères, el-Ghaib, el-Arwab, auquel aucune description ni qualification ne convient. Ce qui de Dieu se donne à voir n'est pas son essence. Seuls les noms divins apparaissent. D'abord en l'essence divine, puis dans les réalités intelligibles, enfin dans les formes des êtres sensibles. Il n'y a de théophanie que des noms qui sont à l'origine de l'opération théophanique. Ils en sont la matière et le terme, puisque chaque étape de la théophanie est leur manifestation. La doctrine des noms divins est la pierre angulaire de la vision théophanique d'Ibn Arabi. Ibn Arabi est conscient de rencontrer avec les noms divins un problème axial de la théologie islamique, de la pensée islamique. Il est au fait des conceptions des théologiens. Cependant, s'il est l'héritier d'une question théologique, il la problématise à nouveau frais. Le traitement des noms divins qu'il dispense sert, me semble-t-il, la constitution d'une théologie philosophique qui veut nous instruire du lien qui attache l'être de Dieu à l'être des choses. Il s'agit de penser l'unité de l'être, la constitution de la réalité. Les noms divins ne participent pas à l'élaboration d'une théologie scolastique dont le but serait d'asseoir exclusivement les vérités de la foi. Ils servent une ontologie entièrement fondée sur l'intuition de la théophanie. Telle perspective modifie considérablement leur statut et leur signification. Ibn Arabi insiste en effet sur l'opérativité, l'effectivité des noms. Il met en évidence leur pouvoir épiphanique, leur fonction décisive dans la logique de la manifestation. Les noms divins constituent la substance de l'essence divine qui se connaît et se manifeste à elle-même. L'intuition de la théophanie leur confère un concept nouveau. Ibn Arabi le formule de deux manières, tantôt dans les termes rigoureux de la philosophie et de l'ontologie, tantôt en sollicitant un vocabulaire imagé qui s'appuie sur les vertus de la représentation. Dans le premier cas, il parle d'autodétermination, ta'ayyun, de l'essence dans ses attributs. Dans le second, il soutient que les noms procèdent du désir qu'éprouve Dieu de sortir de son état d'occultation et de se rendre visible à lui-même. Quel que soit le mode d'énonciation, il s'agit d'établir une même idée. Les multiples attributs que la révélation nous fait connaître sont l'essence divine manifestée à elle-même. Ils constituent ces réalités dans lesquelles et par lesquelles Dieu se révèle en un réceptacle qui est sa propre essence déployée. La divinité se rend connaissable à elle-même et aux êtres capables de recevoir sa révélation dans ses noms. Elle se différencie, je cite Ibn Arabi dans les Foussos, elle se différencie par les noms, affirme-t-il, elle trouve en eux un miroir où son essence se réfléchit. Les noms divins, vous voyez, servent à construire une ontologie qu'on pourrait qualifier de perspectiviste, comme on va le voir tout de suite. L'existence des attributs ne compromet pas l'unité absolue de l'essence divine. El Wahidiya atteste l'unicité divine et les attributs multiples du réel divin. Ibn Arabi illustre cette thèse par la métaphore de l'organisme vivant. Celui-ci, dit-il, possède de multiples organes, mais il n'en demeure pas moins unifié dans son être. Le vivant qu'est l'homme est un dans son être et multiple par ses membres. Il en est de même pour Dieu. Je cite de nouveau Ibn Arabi, « Dieu est un dans son être et multiple par ses noms. » On voit là résolu un problème constant de la philosophie, le problème de l'un et du multiple, à partir d'une ontologie perspectiviste. Alors, si la théorie des noms divins est le pilier central de l'édifice que construit Ibn Arabi, la doctrine, vous le savez, de l'homme parfait en est la cime. Dans les Foussos, les remarques spéculatives qui portent sur la notion d'Insan el-Kamil composent un ensemble cohérent où se découvre l'unité d'intention et la destination de l'édifice tout entier. Ibn Arabi, bien sûr, n'est pas le premier à faire usage en terre d'islam de l'expression « Insan el-Kamil ». Son apport tient cependant, là encore, à la démarche spéculative, consciemment déployée, qui consiste à transformer un thème majeur en une notion rigoureuse. Ibn Arabi a le souci d'offrir au concept de l'homme parfait une cohérence et une dignité théorique dont les enjeux sont certes mystiques, je vais y venir, mais dont les racines sont à chercher du côté de l'ontologie. L'homme parfait, je vous le rappelle, a pour structure intime le réel de Dieu. La thèse inlassablement répétée dans les Foussos exprime quelque chose comme un théomorphisme. Théomorphisme qui s'apparente à une anthropomorphose de Dieu. Si toutes les créatures sont des formes épiphaniques dont l'existence est une louange adressée à Dieu, l'homme parfait, comme forme épiphanique intégrale, porte une louange particulière qui transcende celle dont sont capables les autres êtres. En l'homme parfait, la louange se fait manifestation, apparition, apparition, dira Ibn Arabi, de la forme même de Dieu. Cette notion de l'homme parfait finira par se confondre avec la notion ibn arabienne de réalité mohammadienne. Cette notion de haqiqa mohammadia, tient une place essentielle dans le système, dans la pensée d'Ibn Arabi. Elle est formulée de bien des manières qui toutes dessinent ce qu'il convient d'appeler une doctrine du logos ou du verbe. Pour Ibn Arabi, la réalité ou lumière mohammadienne est la désignation théologique de la première intelligence, l'aql al-awwal. Le concept plotinien de l'intelligence peut être ici convoqué pour désigner le premier degré de l'être déterminé qui procède de l'un. La haqiqa mohammadia, possède les traits caractéristiques du nous. L'intelligence est aussi ordre, ou monde intelligible. Plotin en construit le concept au confluent de trois sources d'inspiration. Le nous, l'intelligence, l'intellect, correspond aux formes platoniciennes. Il forme ce niveau de réalité contenant sous une forme éternelle les rapports et les harmonies perceptibles dans le monde sensible. Il s'apparente au monde des archétypes dont le monde sensible est une imitation, une transposition imagée. La notion plotinienne de l'intelligence reprend aussi la substance de la théorie aristotélicienne de la forme. Le nous est cette instance créatrice et démiurgique qui fait don de la forme. C'est la forme des formes qui, dans le système plotinien, remplit la fonction de ce que les métaphysiciens de l'islam nommeront Wahib al-Suwar, en latin le dateur formarum. À ce titre, l'intelligence, c'est l'acte pur, autrement dit l'être parfait. Enfin, Plotin intègre à ses conceptions bien des aspects du Dieu suprême des stoïciens. Le nous est ce qui gouverne l'univers, il est un principe cosmique qui renferme en lui toutes les réalités, qui en est l'unité multiple. Ce qu'on appelle intelligence, c'est une concentration du monde où s'établit une sympathie universelle entre les choses. Pour exprimer la consistance ontologique de l'intelligence, Plotin sollicite l'image de la lumière. L'intelligence est la lumière primitive qui éclaire primitivement par elle-même, éclat tourné vers soi, à la fois éclairant et éclairé, véritable intelligible qui pense aussi bien qu'il est pensé, qui est vu par soi-même, qui n'a pas besoin d'autre chose et qui se suffit à lui-même pour voir. Car ce qu'il voit, c'est lui-même. Je viens de citer Plotin. Quant au pouvoir cosmique du nous, par lequel il est la raison d'être de tout ce qui existe, il exige le vocabulaire de la souveraineté et de l'hégémonie. Le nous, dit Plotin, pense les êtres et les fait exister. L'intelligence est donc les êtres réels eux-mêmes et ne les pense pas tels qu'ils sont ailleurs. Ils ne sont ni avant elle ni après elle, mais elle est comme le législateur ou plutôt la loi même de leur existence. Sans doute Ibn Arabi pourrait-il faire sienne ces formules. Dans le verbe de Mohammed, il énonce de plusieurs manières ce qu'il pense être la structure ternaire du réel. Il propose des triades qui sont autant de formulations d'une triade fondamentale où se dévoile le secret de l'être. Cette triade primitive correspond aux trois degrés de la procession plotinienne, me semble-t-il. Chacun des termes qui la constitue peut être homologué à l'une des hypostases. L'un désigne dans le vocabulaire d'Ibn Arabi l'essence divine indéterminée. C'est le degré de la divinité occultée qui ne se satisfait pas de son état d'occultation. L'un ne saurait demeurer dans sa solitude, nous dit Plotin, c'est pourquoi il suscite l'intelligence comme ce qui s'épanche nécessairement de lui. Ibn Arabi appelle ce premier degré de l'être déterminé l'intelligence universelle, l'aql al-kulli. Il le nomme plus souvent vérité mohammedienne, réalité mohammedienne, ou Adam al-Haqiqi, l'Adam spirituel, ou l'anthropos au sens vrai. Quant à l'âme, elle est la dernière hypostase qui se situe aux confins de la nature. Elle se présente comme une réalité biface qui, d'un côté, se tourne vers l'intelligence et de l'autre, plonge dans la matière sensible qu'elle organise. Pour Ibn Arabi, c'est l'âme universelle, el-nafs el-kulliya, qui correspond à la femme primordiale, à l'Ève céleste. Alors Ibn Arabi, bien sûr, n'est pas plotin. Il n'est pas plotin parce qu'il y a une différentielle majeure, c'est qu'il substitue à l'émanation plotinienne l'intuition de la théophanie. Il transforme le concept du monde intelligible en une doctrine des noms divins. Cette transformation est indispensable à l'acclimatation due de la pensée de Plotin à la théologie coranique. Les Fusus, al-Hikam, sont précisément le lieu d'une opération. Je crois que ça ne marche plus. Donc je disais, les Fusus sont le lieu d'une opération philosophique majeure où se construisent les principales lignes de ce qu'il convient d'appeler le néoplatonisme islamique. Vous entendez bien ?
Non.
Non ?
On n'entend plus rien.
Continue. Ah non, la patrie.
Il n'y a pas de la patrie. Ah si, ça marche là.
Ah bon.
Oui. Bon, la doctrine de l'homme parfait. C'est un thème de la métaphysique qui ouvre la voie à une mystique. Bien sûr. Mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de mystique chez Ibn Arabi, certainement pas. Mais il est de montrer son enracinement dans des principes. Dans une philosophie et dans des principes ontologiques. Dans la pensée d'Ibn Arabi, ce qu'on appelle couramment la mystique désigne aussi, me semble-t-il, l'anthropologie philosophique qui repose sur l'idée de perfection et de divinisation. Cette anthropologie spirituelle n'est pas un prolongement inessentiel de la métaphysique, une construction artificielle et accidentelle dont on pourrait faire l'économie. Elle est nécessaire à la complétude et à la cohérence de la pensée d'Ibn Arabi. Elle rend intelligible la métaphysique en dévoilant sa destination. Elle autorise deux approches majeures. En fait, on pourrait suivre l'apparition de Dieu en un réceptacle qui est son miroir intégral. Cette approche correspond à l'ontologie de l'homme parfait. La deuxième approche scrute le miroir où a lieu l'épiphanie de tous les noms et attributs de Dieu. Elle étudie la préparation et la disposition intime de ce miroir. Elle envisage tout ce qui lui permet d'être la théophanie parfaite. Tel est le lieu de la mystique. Celle-ci est en quelque sorte le chemin ascendant qui conduit l'homme à Dieu, alors que l'ontologie constitue le chemin descendant où l'homme s'impose comme l'épiphanie parfaite procédant de Dieu. Je crois que ça ne marche pas. Hein. Si ?
Ça marche très bien.
D'accord. Alors, je voudrais, pour conclure rapidement, souligner combien l'expérience mystique chez Ibn Arabi se soutient d'une subtile et complexe construction philosophique dont il faudrait étudier bien plus précisément que je ne l'ai fait, que je l'ai ébauché, la tonalité néoplatonicienne. Je voudrais, pour conclure, dans l'horizon ouvert par Henri Corbin, suggérer combien le soufisme, magistralement réalisé chez Ibn Arabi et par Ibn Arabi, pour ne pas s'absorber totalement dans des pratiques, des expériences personnelles,
pour ne pas se dissoudre totalement dans le rituel confrérique, a besoin de la philosophie, se doit d'être philosophique, se doit d'être philosophant. Je retiens de l'enseignement de Corbin deux choses. D'une part, le choix qu'il fait au sein du soufisme, qu'il le fait privilégier un soufisme des visions imaginales au détriment d'un soufisme austère, d'un soufisme de la calcination de l'humanité, comme dirait Louis Massignon. Pour le dire d'une autre manière, je crois qu'il faut méditer ce choix d'un soufisme plutôt du type d'Ibn Arabi plutôt que d'un soufisme halagien. C'est que pour Corbin, le soufisme c'est seulement en étant un soufisme de l'imagination créatrice, des visions imaginales, qu'il peut véritablement jouer son rôle d'antidote. Je reprends volontiers ce mot d'Henri Corbin. Antidote dont l'islam a, pour Henri Corbin, toujours eu besoin, et dont aujourd'hui, en ces temps si sombres et où domine l'obscurantisme, nous avons plus que jamais besoin. De quel antidote s'agit-il ? Quel antidote le soufisme philosophant d'Ibn Arabi nous propose-t-il ? Je crois que Henri Corbin nous aide à le voir à deux niveaux. Un antidote tout d'abord au dogmatisme religieux. Dès lors que nous n'accédons à Dieu, nous n'accédons au Dieu que dans sa révélation, nous ne savons de Dieu que ce qu'il nous révèle, toutes les religions sont des perspectives sur le Dieu révélé, perspectives configurées par une imagination prophétique, perspectives reçues par l'imagination du croyant. Donc toutes les religions sont des perspectives, toutes les religions doivent consentir à une mise en discussion qui conjure toutes les figures de la violence. Le pluralisme religieux, c'est ce qui laisse libre place aux controverses pour mettre à mal toutes les figures de la violence. C'est aussi, et c'est un point tout à fait essentiel, le soufisme philosophique d'Ibn Arabi, c'est l'antidote au monothéisme abstrait. Comprenant Dieu comme théophanie, comprenant l'essence divine comme habitée d'une activité, Ibn Arabi nous libère d'une vision abstraite de Dieu et par là même il nous libère d'une religion abstraite. Religion abstraite qui inévitablement nourrit des figures de la conscience elles-mêmes abstraites, celles que l'on voit à l'œuvre dans le fanatisme, celles qu'on voit à l'œuvre dans les formes de la terreur, celles qu'on voit à l'œuvre dans ce que Hegel, auteur qu'aimait beaucoup Henri Corbin, appelait la furie du disparaître. Merci.
Merci Soane pour cet exposé magistral sur la dimension philosophique chez Ibn Arabi. Nous avons, comme pour les autres orateurs, 10 minutes, un quart d'heure pour échanger, pour poser des questions. Je vais voir s'il y a un autre micro. Pour que Soane puisse répondre.
Merci beaucoup. Je remarque, pour faire vite, que le titre même de l'ouvrage de Henri Corbin, qui à mon avis lui survivra le plus longtemps, est celui d'imagination créatrice dans la soufisme et de la vie. Le thème même de l'imagination créatrice, qui est réellement, surtout aux yeux de Corbin, l'apport principal d'Ibn Arabi, vous ne l'avez pas tenu compte pour établir au moins que dans le platonisme ou le néoplatonisme, ce qui manque effectivement à ces deux systèmes, c'est qu'il n'y a pas un monde intermédiaire qui fait la communication entre la créature et le créé. Il n'est donc pas question, je suis un peu étonné que vous ayez perdu de vue ce point essentiel. Je m'arrêterai là.
Mon propos, monsieur, n'était pas de faire une présentation du statut de l'imagination créatrice chez Ibn Arabi. Henri Corbin, vous l'avez dit, l'a admirablement fait. Je ne saurais me substituer à lui sur ce point. Mon propos était tout simplement de montrer comment cette notion centrale exigeait l'édification d'une pensée cohérente, philosophique, qui doit en passer par des modèles de pensée néoplatoniciens. C'était tout simplement ça, mon propos.
Autre question, remarque, commentaire.
Est-ce que vous pouvez commenter sur le fait qu'une telle IA, par exemple, fait exactement ses reproches à l'avoir tête à l'habitude?
Quel reproche?
Le reproche de venir de la philosophie grecque, en gros.
Oui, oui, reproche effectivement d'être l'introduction d'un système émanatiste païen au sein de l'islam. Cela repose sur une lecture erronée de la Wahdat al-Wujud, telle que la comprend Ibn Arabi. Cette notion de Wahdat al-Wujud, je l'ai dit rapidement, pardonnez-moi, elle n'est pas d'Ibn Arabi. Elle a été constituée par son beau-fils à des fins essentiellement pédagogiques, didactiques, qu'elle ait subi des simplifications, qu'elle ait fait l'objet de nombreux malentendus, cela ne fait pas de doute. Henri Corbin, précisément sur ce propos, souligne le malentendu qu'il qualifie de douloureux, dans lequel est tombé Louis Massignon. Les reproches qu'Ibn Taymiyyah fait à Ibn Arabi sont aussi ceux que Louis Massignon fait à Ibn Arabi.
Oui.
Merci pour votre intervention. Juste une question par rapport à la conclusion, parce que je ne pense pas avoir les épaules pour dire quoi que ce soit ce que vous avez dit, mais sur le contenu. Vous avez dit que Ibn Arabi, justement, ce serait éventuellement un remède, finalement, avec ce qui nous manque aujourd'hui et face à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Un antidote. En reprenant vraiment le sens que Corbin confère à ce mot.
Juste par rapport à son enseignement, ses écrits sont d'œuvre, il me semble que ce soit pour Henri Corbin aussi, que ce sont des éléments qui sont difficiles d'accès, d'un point de vue intellectuel, mais aussi culturel ou quoi. Même, je reviens peut-être à l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est une œuvre qui est destinée principalement au khawas, c'est-à-dire à l'élite. Comment est-ce que cet antidote peut, c'est-à-dire ce soufisme-là, la forme qu'il prend, peut être bénéfique pour le maximum de personnes, puisque finalement.
Je ne saurais répondre. Il me semble c'est dans la mise en avant de sa dimension philosophique plus que dans sa dimension confrérique et à proprement parler, qu'il me semble véritablement pouvoir jouer ce rôle d'antidote qui ne supprime pas l'existence de ce dont il est l'antidote, mais en propose une position positive qui est pleinement affirmée.
Merci. Là, il me semble enfin que effectivement, bon, Dieu a priori, bon, c'est le domaine de l'absolu, etc. Donc, qui est placé là comme, comment dire, comme inaccessible, enfin comme indicible, inaccessible, etc. Parce que même ce qui apparaît, c'est pas lui. Enfin, c'est, enfin si j'ai bien compris,
c'est lui. Moi, parce que
j'ai pas de culture religieuse, mais ce qui me frappe, c'est que finalement, du coup, on passe dans le relatif et finalement dans l'ordre humain, parce que beaucoup de choses que vous avez dites, comme Dieu, Dieu comme substance agissante et comme sujet, par exemple, ça c'est vraiment frappant. Là, on est, il me semble que là, on est dans l'ordre humain, on n'est plus dans l'ordre divin. Ou alors, si on commence à discuter Dieu, enfin, ou ce qui concerne Dieu, on est dans l'ordre humain et, dans, et finalement, en suivant le fil. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'on va vers la sortie de la religion, comme disait Marcel Gaucher. Mais enfin, là, Marcel Gaucher, c'est pas, il ne parlait pas de l'islam. Mais non, enfin, je ne sais pas. Disons, en suivant le fil de ce passage dans le relatif, moi, j'ai l'impression qu'on est plus, dans, encore une fois, dans l'humain que dans le divin. Mais c'est une constatation. C'est pas du tout un problème. Enfin.
Il me semble que ce qui chez Ibn Arabi est tout à fait intéressant dans l'élaboration spéculative qu'il nous donne, c'est véritablement la constitution d'une théologie là, dont j'ai essayé de mettre en avant les aspects philosophiques, qui nous met dans l'horizon de ce que fait, ce qu'a fait en Occident quelqu'un comme Schelling, quelqu'un comme Hegel. C'est de ça dont il s'agit à proprement parler. Hein. Et mon propos n'était pas de nier la dimension mystique, mais de montrer son enracinement dans une philosophie hautement spéculative qui a ses titres de noblesse et dont, me semble-t-il, on ne met pas suffisamment en avant les ressources et la dimension proprement philosophique.
Merci.